Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr, votre rendez-vous hebdomadaire avec les podcasts de la rédaction. Et aujourd'hui, eh bien podcast 57, je sais, vous l'attendiez avec impatience. Alors justement, la thématique du jour, c'est un événement qui se déroulait mardi dernier, mardi 6 mai. Il s'agit du PlayStation Day 08, où Julo, ici présent, et Raan ont pu assister. Sony organisait donc ça pour présenter certains de ses gros titres à venir pour la fin de l'année 2008, et certains, dont un certain, pour le début d'année 2009. Vous avez enfin pu être parmi les tout premiers à jouer à ces jeux, alors vous allez pouvoir nous donner un petit peu vos impressions.
Non.
Ce serait sympa. Donc messieurs, faisons un petit point, un petit tour d'horizon de ce PlayStation Day 08. Que s'est-il passé? Je pense que ce serait bien de commencer un petit peu par les conférences, un petit peu ce qui s'est dit.
La conférence,
exactement, celle avec Kaz Hirai, président de Sony Computer Entertainment World, et aussi David Reeves, qui lui s'occupe de la partie européenne.
Ouais, et Kaz Hirai qui reprend aussi, qui est toujours, je crois, directeur des studios Monde à la place de Phil Harrison, qui s'est barré pour aller chez Atari.
Tout à fait. Pourquoi Julo?
C'est quoi ce bruit?
Alors justement, on connaissait un Sony assez fringant au lancement de la PlayStation 3, très sûr de sa force. La nouvelle génération commencera quand on l'aura décidé avec la PlayStation 3. Depuis, des ventes correctes, certes, mais comparé par exemple à la Wii, c'est bien inférieur. Comparé à la Xbox 360 avec un an de retard, ils ne l'ont toujours pas rattrapé. Du coup, pas mal de mea culpa lors de cette conférence. Qui veut en parler un petit peu? Kaz Hirai a été assez humble d'ailleurs, Julo.
Plutôt humble, oui. Il s'est même excusé
à deux reprises,
c'est ça.
Ouais. Une particulière pour le home, retard du home.
Voilà, c'est
on
ça.
Reviendra dessus
en
tout
début
à l'heure,
de conférence, il s'est excusé pour le retard. Et des retards, il y en a eu d'autres qui ont été annoncés d'ailleurs. Mais enfin, il a commencé par faire le point donc sur les chiffres, donc le nombre de PlayStation vendus dans le monde, en Europe. Donc, il a parlé de 10,5 millions de PS3 vendus dans le monde, dont 5 pour l'Europe. Mm-hmm. 34 millions de PSP, dont 12 pour l'Europe, et 127 millions de PS2, parce qu'on a parlé aussi un peu de la PS2, même si elle était complètement ensuite sortie
occultée,
du propos.
Ouais.
Voilà.
Mmh. Enfin, qui continue sa vie, effectivement. Donc tout ça pour parler un petit peu du fameux cycle des 10 ans,
voilà,
cher à Sony, et du coup justement sur lequel ils reviennent pour la PS3.
Oui, il a redit clairement que qu'ils avaient une politique à long terme. Il a même parlé de au moins 10 ans.
Ouais, voilà. 10 ans minimum. Ouais.
Donc il reste malgré tout, effectivement, même s'ils ne font pas les gros bras, ils restent, comment dire,
sûrs de leur force,
voilà,
parce qu'ils annoncent qu'à la
force.
Fin de ces 10 ans, ils seront numéro 1 des charts.
Voilà.
Qu'ils auront exactement la base installée la plus importante comparée à la Wii et la Xbox 360. On fait un petit point sur justement un petit état des lieux de ce qu'il en est aujourd'hui, hein, au mois de mai 2008. Alors justement, bah, la PS3 dans le monde, on le disait, c'est un petit peu plus de 10 millions d'exemplaires vendus, avec une très forte proportion aux États-Unis, en Europe aussi. Au Japon, c'est 2,9 millions d'exemplaires. Bon. Mais alors, devant, il y a quand même la Xbox 360 avec 18,72 millions d'exemplaires cumulés, vendus depuis le lancement.
D'unité, donc, en l'occurrence.
Exactement. Ouais. Vendus depuis le lancement en novembre 2005. Avec là, très clairement, hein, une absence quasiment totale du Japon, hein, 600 000 machines vendues. En Europe et le territoire australien, enfin, tout le pays, la zone pâle, c'est 6,4 millions d'exemplaires vendus. Et gros carton aux États-Unis, quasiment 12 millions de ventes. Donc rien que les territoires américains, c'est quasiment autant de PlayStation 3 vendus dans le monde. C'est quand même assez important. Et puis alors, au-delà de ça, il y a la Wii. Hein, la Wii qui trust et qui explose
catégorie.
Toutes les charts. Hein, 25,46 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Au coude à coude, hein, avec la Xbox 360 aux États-Unis, 11 millions et quelques de ventes, qui marche très bien en Europe, hein, 8,35. Et au Japon, bah, qui fait clairement la course en tête avec quasiment 6 millions d'exemplaires vendus. Soit bah, plus de 6 fois, 7 fois ce que vend Microsoft avec sa 360. Bon, enfin bon. Alors justement, ce qui est assez intéressant, c'est de voir à quel point finalement la Wii déforme un petit peu notre vision du marché. Et ce qui était annoncé justement lors de la conférence, Julo, c'était que, attention, on parle parfois dans les médias d'une PS3 un petit peu timorée qui aurait réussi un lancement très mitigé. Finalement, ce que nous dit Kaz Hirai, c'est qu'elle serait sur les mêmes bases
que sur les traces de la PlayStation 2.
La PlayStation 2, voilà, au même niveau.
Ce qui est vrai, effectivement. On a complètement déformé notre vision avec la DS et la Wii, les deux. Hein, parce que la DS
qui sont des aberrations en termes de vente, en fait.
Par rapport aux autres, oui. Mais
parce qu'elles ont effectivement réussi à conquérir tout un public qui n'existait pas avant, quoi, sur les consoles de jeux.
Et qu'apparemment, Microsoft et Sony n'arrivent pas non plus à conquérir de leur côté. Ils n'arrivent pas à profiter de cette brèche-là, pour l'instant, en tous les cas. Mais bon, apparemment, donc Sony compte bien le faire. Si on revient sur la conférence, ils ont rappelé, un peu comme au TGS, donc Irai a dit que ça restait une machine gamer avant tout.
C'est nouveau, pour les jeux. Effectivement uniquement depuis le TGS, donc ça fait quoi ? Allez, ça fait moins d'un an que Sony est en train de rebasculer un petit peu. Avant, c'était la machine à tout faire, c'était le Blu-ray, c'était le cinéma, et maintenant c'est les jeux.
Globalement, même s'il commence son speech en rappelant ça et en réitérant ce qu'il a dit au TGS, deux secondes après, on bascule encore dans c'est une machine multifacette, il y a du Blu-ray, il y a de la communauté, il y a machin, il y a bidule. Donc le message n'est pas très 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 clair.
Ouais, c'est ça.
Donc, en tous les cas, moi, je n'ai pas trouvé ça hyper... c'est pas comme s'il y avait une vision vraiment simple à laquelle tu peux t'accrocher et voir vraiment où est-ce qu'ils veulent aller. Quoi.
Leur vision, quand même, il l'a dit assez clairement, moi je trouve, c'est que c'est de faire de la PS3 un hub dans le salon multimédia qui servirait autant pour jouer que pour faire un tas d'autres trucs. Ils ont beaucoup parlé de Play TV.
Il y a la Play TV aussi, Play TV, qui sort. Ouais. On rappelle un petit peu ce que c'est ?
Play TV, c'est un petit boîtier qui te permettra de recevoir les chaînes TNT HD d'enregistrer les programmes sur ta PS3, etc. Enfin,
ça transforme ta PS3 en TiVo, quoi, pour ceux qui connaissent.
Ou en Media Center, quoi, tout simplement.
Alors là, ça posera juste une question et qui a d'ailleurs été un petit peu évoquée rapidement par Sony, c'est le disque dur, hein, parce que ce genre de choses consomme énormément de place. On voit que les consoles qu'ils vendent globalement, c'est du 40 Go, en tout cas en Europe. Enregistrer de la télé HD, ça pompe. Et du coup, Sony aurait sous-entendu que peut-être il y aurait l'arrivée de disques durs externes d'ici quelques temps.
Déjà, mais enfin, tu peux de toute façon changer ton disque dur tout seul comme un grand. Hein. C'est un disque dur standard.
Il faut s'y connaître quand même.
Non, attends, c'est pas non plus énorme. Hein. Pour les mêmes fonctions.
Si justement Sony veut rééditer le succès.
Mais pour les mêmes fonctions par rapport
Nintendo,
à
il faut être très grand public.
Par rapport à Sony, Microsoft, sur les mêmes fonctions, par contre, là, ton disque dur, t'es foutu. T'es obligé d'acheter un truc propriétaire. Quoi. Mm-hmm. Donc déjà, ça, c'est un peu plus pénible. Mm-hmm. Donc mine de rien, c'est plus pratique pour ça. Et même si effectivement, je te le concède, c'est pas forcément super grand public, c'est pas non plus très, très, très compliqué.
Non,
quand
mais
même.
C'est surtout que le grand public ne le sait pas, tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun endroit dans le. Tu vas à la Fnac, tu vas n'importe où, il n'y a aucun truc qui te dit que tu peux changer ton disque dur ou que tu peux en acheter un nouveau. Les gens ne vont pas s'amuser à essayer de dévisser leur PlayStation pour voir qu'en dessous, il y a un disque dur à changer. Quoi.
Mais bon, il y a ça. Et puis, pour l'instant, a priori, d'après les il faut qu'on vérifie ça, mais d'après les premiers éléments qu'on a sur Play TV, les fichiers qu'elle enregistre de vidéos ne seront pas protégés ou DRMisés ou quoi au caisse. Donc, on pourra aussi les archiver ailleurs ou les sortir de la PSP.
Est-ce qu'ils ont annoncé la possibilité de les envoyer sur sa PSP?
Alors, ça, tu peux de toute façon le faire avec le Remote Play. Ouais. Mm-hmm. De toute façon, que ça soit du jeu, de la vidéo, n'importe
c'est
quoi.
C'est super sympa.
Ça marche très bien. Sûr.
Ce qu'ils avaient montré, c'était au dernier salon, comment il s'appelle, à Las Vegas, le CES. Ils avaient évoqué donc, la possibilité de transférer un Blu-ray directement dans ta PSP au bon format, etc.
Je crois qu'en ce moment,
mais ça, ils n'en ont pas reparlé. Là.
Bah non, parce que c'est en négociation avec les grosses majors, parce que bien évidemment, c'est quand même la porte ouverte à toutes les fenêtres du piratage cosmique. Mais bon, on verra. En tout cas, ils l'ont évoqué. Ça veut dire que c'est dans leur tête. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la conférence qui vous ont marqué avant de parler des jeux hein, parce qu'il y a eu pas mal de choses.
Pendant qu'on y est, sur la conférence elle-même et donc sur les jeux après, aucun jeu PSP. Rien de présenté, que dalle.
Ça,
zéro,
c'est important. Nib. Parce que dans la conférence, effectivement, ils parlent de la PSP, d'un succès.
Voilà, ils ont montré les trucs GoView, le machin de comment ça s'appelle
le
GPS. Voilà.
Le GPS, GoView.
Mais aucun jeu. Voilà, pas de jeu.
Le truc aussi pour télécharger des tas d'émissions qui est en partenariat avec Sky.
Ça, c'est pour effectivement l'Angleterre. Pour la France, on ne sait pas encore.
Voilà, ils vont développer des partenariats pour tous les autres pays d'Europe. Mais enfin, ils ont parlé de tout sauf de jeux pour la PSP.
Alors, sauf un, apparemment, vous me le disiez tout à l'heure, il y avait une petite jaquette.
Ah
se baladait.
Slides,
Et
parce qu'évidemment, quoi, derrière, sur la scène, donc derrière les intervenants, il y avait un écran géant sur lequel tu avais des slides qui passaient pour illustrer
les
propos
et
tout ça. Et à un moment, oui, il y a eu une jaquette de Gran Turismo 4
c'est
mobile.
C'est bien.
L'Arlésienne.
Surtout qu'on est un peu passé au 5 maintenant. Alors, oui, ça fait des mois qu'on n'en entend plus parler.
Mais je sais pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis. Est-ce que c'est vraiment parce qu'ils en avaient pas d'autres du tout, comme s'ils avaient pas du tout de jaquette PSP à mettre, voilà, et qu'ils avaient plus que celle-là, ou si c'était pour se foutre un peu de notre gueule ou faire du teasing.
Créer un peu de buzz, machin. Bon.
Ouais, en tout cas, ça m'a
pas d'informations à ce niveau-là, en tout cas.
Et puis, non, mais l'autre grand axe qui a été développé pendant toute la fin de cette longue conférence, ça a été tout l'aspect créatif et communautaire. Ouais. Ouais. Donc, ça, ils en ont parlé et reparlé. Ils veulent vraiment faire créer autour de la PS3 une véritable communauté. Donc, ça passera par tout un tas de jeux, et notamment Buzz aussi. Ils ont expliqué qu'en gros, dans Buzz, on pourra downloader des quiz packs. On pourra également créer ses propres quiz. Et là, ça peut être rigolo, parce qu'ils ont créé, ils ont parlé par exemple d'un mec, d'un fan de Star Trek, qui ferait le quiz Star Trek. Tu vois, par exemple.
C'est une sorte du Wikipédia du quiz.
Exactement.
Donc, on pourrait faire un quiz sur Gameblog. Ouais, ouais. Quand est-ce que ça a été créé?
Exactement.
D'accord.
On aura beaucoup de joueurs.
Plein de joueurs.
Pseudo de Julien.
Ah oui, un mystère absolu. Enfin, c'est génial.
Ils ont beaucoup parlé de
SingStar. Sur quoi étaient enregistrés les podcasts?
Ah, pas mal.
Ils ont beaucoup parlé de SingStar également, en disant qu'il y avait eu déjà 20 000 uploads de vidéos. Ils en ont montré quelques-unes, c'était assez rigolo.
C'est mode très YouTube. Voilà. C'est sympa. On voit aussi un peu le visage des joueurs de ce style de jeu.
Ah, c'est
vraiment
chouette,
la famille. Il y a des adultes, il y a des enfants, il y a des grands-parents.
Ils l'ont bien exploité pour bien montrer que nous aussi, regardez, on plaît aux vieux et aux jeunes.
Et donc vraiment ils ont mis l'accent sur le contenu généré par les utilisateurs.
Ouais. Et sur le contenu téléchargé, ils ont dit que 75% des utilisateurs avaient téléchargé du contenu via le Blu-ray Live aussi pour les Blu-ray, parce qu'ils ont fait quand même une bonne partie de la conférence sur le Blu-ray aussi, en disant qu'il y avait déjà 5 millions de lecteurs de Blu-ray, etc. Tu vois, donc ils n'ont pas parlé que du jeu. Et pour ce qui est des chansons aussi, ils étaient très contents d'avoir vendu plein de chansons. Et de
un million, je crois.
Un million de chansons. Et ils ont dit que ça faisait 6,3 par utilisateur.
C'est ça, ce qui est quand même pas mal.
Bah c'est bien, parce que le grand public, généralement, autant les gamers se plaignent toujours d'avoir à racheter des trucs en plus, autant le grand public s'en fout. Hein. Ah, il y a le nouveau Madonna, j'achète.
Ils ont aussi beaucoup parlé, évidemment, de Little Big Planet à ce niveau-là. Parce que on sait,
mais ça, on va revenir quand on va vraiment rentrer dans quelques instants, d'ailleurs.
Mais globalement,
si vous écoutez ce podcast, les jeux, ils arrivent, ne vous inquiétez pas.
Globalement, le PSN aussi, ils nous ont annoncé qu'il y avait eu 8 millions de comptes créés.
Ouais.
3 millions en Europe, apparemment.
Mm-hmm. Sachant que j'en ai déjà 3, moi, tout seul. Comme beaucoup d'autres utilisateurs, je sais pas ce que ça vaut vraiment.
C'est vrai.
Bon, c'est pas trop mal, 8 millions.
Non, c'est pas mal.
C'est un chiffre correct.
Mais bon, ça reste quelque chose de gratuit aussi. Mais bon, c'est intéressant de voir que les gens en profitent. Ouais.
En tout cas, ce qui est sûr pour conclure, c'est qu'en dehors des jeux dont on va parler bientôt, ils avaient vraiment des tas de choses à dire sur le hub du salon, le hub multimédia, sur.
Ouais.
Le contenu utilisateur, etc.
Donc, si je puis me permettre, je reviens un petit peu sur ce que disait Raon tout à l'heure. Effectivement, pour des gens qui disent « Nouveau message, attention, on va clarifier les choses, la PS3 est une console de jeu avant tout, c'est du jeu. » Bah là, ça fait 5 minutes qu'on parle de plein de choses justement.
Il a insisté sur les deux. Il a dit « Ça reste une machine de jeu, mais voilà. »
Ouais. Mais c'est multifacette.
Voilà, et on voit effectivement que là dernièrement,
il faut savoir aussi un autre truc,
il y a des développeurs qui s'en sont plaints un petit peu.
Cette conférence ne s'adressait pas qu'à la presse, il y avait aussi sur place des acheteurs, ce qu'on appelle le trade, c'est-à-dire des gens qui sont pas forcément au fait ou qui sont pas là pour avoir des infos sur des jeux qui vont paraître un an plus tard.
C'est un gros récap.
Voilà, c'est une conférence qui est du coup très longue et qui est adaptée à plusieurs publics différents.
Et qui a un vrai intérêt par rapport à ce qu'on peut s'attendre d'un E3, à 2 mois, un petit peu plus de 2 mois de l'E3 justement, est-ce que ça fait pas un peu doublon?
Bah, par rapport, il n'y avait pas des conférences et des événements comme ça à l'époque où l'E3 était flamboyant.
Ouais.
Les conférences E3 étaient en général beaucoup plus riches en annonces.
Oui, parce que là on va le voir quand même. C'était
plus pour faire quelque chose en Europe aussi peut-être. Voilà, on va pas s'en plaindre.
Pour remercier les Européens, les premiers acheteurs de PS3 dans le monde.
Dans toute la conférence, à chaque fois on nous donnait aussi.
Qui sont bien entubés au niveau euro, etc. C'est ça.
Voilà, c'est ceux-là même. Tiens d'ailleurs, on a parlé de Rock Band aussi. On a parlé de Rock Band avec, pareil, toujours dans la même idée de développer des communautés, etc. Ils vont faire tourner 2 mecs dans toute l'Europe pour aller choper des groupes locaux. Donc voilà, des mecs qui font
de la
musique
dans toute l'Europe. J'adore ce concept.
Ils vont voyager avec leur van, etc. Ils vont choper des groupes à Paris, à Madrid, machin, etc. Et après, ces mecs-là pourront avoir leur chanson dans Rock Band, machin, etc.
Ouh, puis ils annonçaient aussi le lancement du bundle PS3 Metal Gear Solid 4, un bundle incroyable de qualité et d'arnaque financière, puisqu'on est quand même à peu près les moins bien lotis du monde. Hein. Ouais. On est ceux qui vont le payer le plus cher, mais ça, quelque part, on est un petit peu habitué avec l'euro.
C'est comme si on n'avait pas l'habitude d'être lésé.
Mais aussi, en termes de qualité de l'offre, hein, on va se retaper encore une vieille 6 axis toute pourrie.
40
alors que, voilà, une 40 gigas, rien, alors que les autres, eh ben, se tapent plusieurs manettes, certaines vibrantes déjà, et ben, nous, que dalle.
Une console spéciale au Japon.
Voilà. Trois consoles spéciales.
Ah oui,
quatre.
Il y a quatre couleurs.
Il y a trois couleurs plus la gagnée.
Ah, d'accord.
Et nous, rien.
Ouais.
Que dalle.
Que dalle.
Petit truc juste à.
C'est sympa pour nous remercier d'être les premiers acheteurs de PS3. J'adore ce concept.
Petit truc juste à retenir aussi.
Ouais,
il a donc beaucoup parlé des partenariats et des relations avec les éditeurs tiers, etc. En disant qu'il y avait du changement dans le.
Ouais.
Pardon, c'est ma voix. Ouais. Qu'il y avait du changement dans les leads plateformes pour certains grands jeux à venir.
Ça.
Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, en fait, notamment GTA 4, mais il y en a beaucoup d'autres, la lead plateforme, donc celle sur laquelle est développé le jeu de base, était la Xbox 360. Et d'après lui, alors sans citer de titre ni rien du tout, il a dit que à partir de maintenant, voilà, la tendance allait changer.
Ouais, en gros, il a dit de plus en plus de studios envisagent de faire de la PlayStation 3 leur
lead plateforme. Voilà.
Donc, ce qui reste,
on est passé de 10% à 15%, ce qui est vrai, donc de plus en plus.
Peut-être, mais peut-être pas non plus. Ouais. Enfin, tu vois, il peut dire ça, on n'a aucun moyen de vérifier. Personne dans la salle n'avait quoi que ce soit comme données vraiment fiables à ce niveau-là.
Bon, on va parler maintenant de choses terriblement concrètes, de vos impressions, messieurs, sur certains titres qui ont été dévoilés. Alors, certains jouables, comme MotorStorm 2, Little Big Planet, Killzone 2 ou encore Resistance 2. Beaucoup de 2, hein, je trouve.
Pas jouable, Resistance 2.
Ouais, enfin, vite vu.
T'as un multi, quoi.
Mirror's Edge.
Alors
qui
ça,
on va commencer par lui parce que c'est la bonne surprise, en fait, vraiment de cet événement.
C'est pas une surprise, on connaissait d'avant.
Voilà, mais c'est la première fois, on le voit vraiment.
On voit aussi longuement une phase présentée, en tous les cas, comme étant du gameplay. Et moi, personnellement, c'est le seul truc qui m'a vraiment, vraiment enchanté sur ça. Enfin, Killzone 2 était très sympa à jouer, mais personnellement, je suis beaucoup plus sensible à Mirror's Edge.
Depuis les premières images, le premier article qu'on avait lu à l'époque dans Edge aussi, c'est un jeu qui s'annonce vraiment intéressant.
Situe un petit peu justement.
Et ben Mirror's Edge, c'est ils sont partis du principe que un FPS pouvait être vachement plus immersif. Et donc là, c'est un jeu, en gros, où on va devoir courir un peu partout, sauter sur des murs.
Sorte de Yamakasi.
Voilà, Yamakasi avec un peu des armes, etc. aussi. Mais en gros, c'est le comment t'appelles ça en anglais?
Le body awareness.
Le body awareness, donc le fait d'avoir conscience de son corps quand tu joues dans un FPS.
C'est-à-dire qu'on voit ses pieds, ses mains.
Voilà, quand elle court, quand elle fait une roulade, bah tu fais la caméra fait la roulade, tu vois ses pieds quand elle saute, tu vois ses mains quand elle s'accroche sur des murets, etc. Et donc c'est vrai que c'est ultra immersif et tu entends sa respiration comme ça.
Il y a énormément de boulot sur le son.
Ouais. On va juste y revenir, mais alors qu'est-ce que ça a de vraiment nouveau par rapport à un jeu moi qui m'avait plu et qui était vraiment ce même concept,
Breakdown.
Ce qui est Breakdown sur Xbox première du nom, qui était développé par Namco, où effectivement pareil, on incarnait un personnage, on voyait ses bras, ses mains. Bon, le jeu en lui-même n'était pas terrible.
Là, c'est un jeu d'action. Là, on est vachement plus dans l'action. C'est vachement plus rapide, plus
ça a l'air d'être
plus interactif.
En fait, il faut voir ils ont articulé. Ils ont articulé tout le monde, tout le design et sans aucun doute toute l'histoire autour de ce principe-là, puisque qu'on va incarner ce qu'ils appellent une runner qui s'appelle Faith.
Coursier des temps modernes.
Voilà, une espèce de coursier des temps modernes qui véhicule de l'information, qui est ça se passe dans un espèce de futur alternatif.
Plutôt mimi en plus, le look est plutôt réussi.
Un peu asiate avec un petit tatouage sur l'œil et tout. Bref, alors le problème c'est qu'on ne sait pas justement si ce sera relativement libre dans la progression. Et sur les images qui ont été présentées, que tout le monde a vues et qui sont d'ailleurs en ligne sur gameblog.fr aussi, donc tout le monde peut les voir, on est dans la peau de Face et on court sur les toits d'immeubles, mais on ne sait pas si c'est une route prédéfinie ou si il y a vraiment plusieurs chemins ou pas. Il y a encore beaucoup de choses à voir, et en termes d'action ça ressemble quand même vachement plus à effectivement une sorte de Yamakasi-like, en fait une sorte de platforming à la première personne, que un vrai FPS où tu passes en fait le plus clair de ton temps à tirer sur des ennemis. Il y a relativement finalement peu de séquences, à mon avis, en tous les cas c'est pas là-dessus qu'ils ont mis l'accent, sur le tir en lui-même. C'est pas ça qui sera le cœur du gameplay.
Mais là,
on voit à un moment il y a un flingue, mais c'est vrai que c'est clairement pas le.
Puis on le voit, et à ce moment-là elle désarme un peu en plus.
Tu vas sans doute passer beaucoup plus ton temps à fuir.
C'est ça a l'air très vif, très rapide,
nerveux et tout.
On en parlait, le traitement du son est très bon. Il y a une espèce d'impression d'immensité comme ça, on entend le vent. Le design a l'air très ouvert. Alors est-ce que justement on aura plusieurs chemins ou pas, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, il y a une sensation de vertige,
une vraie sensation de liberté et de vertige. effectivement, même dans la musique aussi, qui a été choisie, c'est pas du tout une musique axée action, c'est une musique, au contraire, vraiment, c'est la liberté d'être dans la peau de quelqu'un qui est capable de faire ça.
Et puis j'aime
dans
bien
un
le design aussi,
urbain.
Les textures super basiques, tout blanc, tout bleu, tout rouge, mais ça reste assez joli. Et
oui, alors là,
avec des couleurs vives aussi.
Oui, qui ont l'air des sortes d'astuces par où faut passer. Le tuyau rouge, bien c'est rouge, ça, le mur bien jaune.
C'est pas idiot, c'est très bien. Idiot, ouais. En termes de design, c'est très bien, c'est pas du tout idiot, effectivement. Mm-hmm. Bon, maintenant, on en a vu peu et.
Mais en tout cas, on te demande à en voir plus. Parce
ça fait rêver, moi, je trouve. Voilà,
bonne impression.
C'est partie des trucs que tu vois en tant que
c'est
gamer.
Frais,
c'est
rafraîchissant. Voilà. C'est beaucoup plus rafraîchissant qu'un Killzone 2, par exemple, hein, pour être objectif.
Ouais, très honnêtement, ici, en tout cas, c'est un peu le titre qui nous a donné le plus envie d'avoir, en tout cas pour le PlayStation D08.
Oui.
Voilà. Et cela dit, bon, faut remettre les pieds sur terre, c'était qu'un trailer. À côté de ça, il y avait des jeux jouables, machin, etc.
Voilà. Et ben justement, on va en parler après ce Mirror's Edge qu'on vous invite, hein, si vous ne l'avez pas vu encore, à aller vous ruer sur le moteur de recherche de Gameblog.fr qui est extraordinaire pour voir la vidéo. Et puis, si vous avez une PS3, il est aussi disponible en full HD. Comme ça, pour vous en mettre plein la tronchasse. On parle de l'autre jeu événement, celui qui a été reporté à février 2009. Je veux bien évidemment parler de Killzone 2. Alors messieurs, là, pour une fois, vous avez pu enfin mettre la main dessus. Quelles sont vos premières sensations ?
Eh ben, c'est... Visuellement, c'est effectivement magnifique. Ça reste très gris dans les tons, mais ça, c'est un design qui est très homogène, qui se tient tout à fait évidemment avec l'univers du jeu.
Et puis il y aura peut-être d'autres niveaux qui seront moins gris, marron.
Alors j'ai demandé effectivement,
j'en ai
parlé avec un développeur justement sur place. Je lui ai demandé expressément s'il y aurait d'autres niveaux pas urbains. Donc sous-entendu peut-être dans, je sais pas, une jungle, un autre truc, enfin,
ou des couloirs.
Il m'a dit oui, il y en aura, mais il n'a pas voulu me donner de détails supplémentaires. Donc pour l'instant, on a vu que ça, que de ces environnements qui sont en fait les mêmes que depuis la toute première vidéo archi fake qui a été balancée en 2005.
Bah, archi fake, finalement, graphiquement, on se rapproche de ce résultat-là, même si le fait de pouvoir y jouer, donc la caméra bouge d'une certaine manière, etc., il n'y a plus toute cette mise en scène qu'il y avait dans le tout premier trailer qui était fantastique.
Un petit peu quand même, parce que tu débarques toujours sur cette espèce de pod volant là. Il y a les mecs qui te parlent, il y a des cadrages de caméra.
Oui, il y a les mecs qui te parlent. C'est vrai que t'as une bonne ambiance, quoi. C'est ça aussi, c'est que c'est cette nouvelle mouvance, on va dire, un peu comme dans Call of Duty 4.
Ah oui, complètement.
Il y a vraiment plein
ça,
de trucs qui se passent autour de
filmé
toi.
Filmé à l'épaule, caméra à l'épaule, voilà. Ça bouge de partout,
ça
on
bouge,
est immergé.
Ça bouge, ça gueule.
David Reeves, donc le président de Sony Computer Europe, parlait de The Theater of War, le théâtre de la guerre. C'est vraiment ça, on est immergé, il se passe des trucs partout autour de soi.
Ouais, mais c'est pas nouveau dans l'absolu, effectivement. Donc c'était très très beau, très bien fait. Leur animation est fantastique, le système de couverture était intéressant.
Ça, les animations, c'est vraiment beaucoup d'interactions aussi, visiblement, avec d'autres personnages. On peut
alors,
aider,
ils ont
on
un système, effectivement, de buddy, je sais plus quoi.
Pour se faire la courte échelle.
Voilà, c'est juste appuyer sur un bouton, hein. C'est même pas un quick time event, donc c'est pas hyper important. Mais il y a des moments où effectivement il faudra aider ses potes pour franchir certains trucs. Tu devras, parce que tu évolues toujours en squad, donc il y a sûrement aussi des endroits où tu devras activer des mécanismes à plusieurs, synchroniser des trucs, mais c'est pas hyper important dans le game design.
Alors il y a une chose qui est quand même assez intéressante et rassurante quelque part aussi, c'est que rappelez-vous, hein, l'année dernière, l'E3 2007, petite 3, mais enfin néanmoins, il y avait déjà une nouvelle, il y avait une présentation in-game de Killzone 2, donc et il y a eu déjà un petit palier graphique qui a été passé depuis cette première version. On voit les visages des personnages ont été retravaillés encore, on se rapproche de plus en plus de la cinématique, soyons clairs, hein, je pense qu'on l'atteindra clairement
non,
pas.
Ils l'atteindront jamais, mais par contre un truc qui est vrai, c'est que sur tout ce qui est par exemple effet de profondeur de champ, les effets de caméra, tu sais, où t'as un second plan qui est flou, le premier
flou,
qui voilà, là c'est vraiment quasiment nickel, quoi. Il y a pas de petits artefacts comme on peut, parce que d'autres jeux utilisent aussi ces principes là ces techniques là mais c'est vraiment super propre, c'est vraiment super bien fait.
Et alors vous qui avez joué, est-ce que le gameplay est intéressant? On se rapproche de quoi là? On a parlé tout à l'heure de Call of Duty, hein.
Ouais, on se rapproche de Call of Duty dans la formule, parce que c'est très scripté, t'avances de couloir en salle avec des objectifs. Par exemple, dans cette mission-là, on devait à un moment ramasser un lance-roquettes et abattre un pont avant de pouvoir progresser, puisque le but était de sécuriser la zone pour l'arrivée des renforts. Donc t'as des objectifs comme ça au milieu du niveau, et tu t'enchaînes ces scènes de combat comme ça, mais c'est très scripté à la Call of Duty 4, donc ça reste vraiment du first-person shooter
très efficace.
Efficace et, voilà. Classique. Donc.
D'accord. Vous pensez que c'est lié à quoi, justement, ce report? C'est pour peaufiner? Ils sont un petit peu en retard? C'est lié à quoi? C'est peut-être la peur
alors,
aussi d'être un peu en frontal avec Gears of War 2? dont le dernier trailer vient de tomber la fin de semaine dernière.
Je sais pas si c'est une peur de Gears of War 2, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un multijoueur de prévu qui n'a pour l'instant pas été dévoilé. Ouais. Ils n'en ont pas parlé du tout. Peut-être que c'est ça aussi qui retarde le développement, parce qu'on sait qu'en général, les multis, ça prend beaucoup de temps. Et maintenant, à la faveur de titres justement comme Call of Duty 4 ou Halo 3,
on voit que c'est très important dans un titre.
Voilà, des jeux qui font beaucoup sur le multi. Ils espèrent sans doute réussir quelque chose. Et d'un autre côté, il y a aussi Résistance 2.
C'est voilà, on allait venir là-dessus justement. Passe à Résistance 2.
Bah ouais.
Ouais. Qui propose lui par contre apparemment un mode multi hallucinant.
Ça a été uniquement axé là-dessus. Il y avait rien d'autre à voir que des images du multi. D'ailleurs, on n'a pas pu jouer au jeu. Juste le voir en vidéo pendant la conférence, ou sur des petits écrans en démo, sur un petit stand. Moi, la première impression que ça m'a fait, c'était...
Sois franc, Julo, sois franc.
C'était vraiment moche. Pas très beau, ouais. Moche. Ouais.
Pire que le premier.
Pire
veut pas dire que le premier était pas beau, mais bon, est-ce que c'est
non, mais vraiment, donc c'est du multi qu'ils ont montré, donc il y avait des textures, pardon, zarbi. Des textures zarbi, du crénelage à donf, il y avait.
C'était pas prêt.
On rappelle, il l'annonçait clairement, le jeu est à 40%. Alors, peut-être un peu étonnant pour un titre qui sort quand même cet automne.
Non, parce que le problème, c'est que ça veut rien dire les pourcentages. En fait, quand tu dis 40%, de toute façon, l'important, c'est peut-être les 20 derniers pourcents de développement où ils font toutes les optimisations.
Mais est-ce que c'est quand même pas paradoxal pour un jeu qui sort c'est quoi la date exacte? C'est quoi, Julo? Tu l'as? C'est novembre.
C'est novembre. Automne, ouais,
Donc bon, on va dire dans 6 mois à peu près. Non, mais le truc, alors qu'un jeu qui sort en février, il y a une vidéo, enfin il y a une démo jouable et l'autre, il y en a pas.
Non, mais ils ont pas montré la campagne. Ils vont la montrer après.
Ils vont la montrer.
La campagne est certainement nettement plus avancée. Là, ils ont choisi de le faire certainement pour ne pas être en frontal avec Killzone 2 non plus.
Ouais, oui,
mais ils ont aussi choisi de dévoiler que le multi, qui reste quand même une offre assez intéressante sur le papier. Parce que mais 60
ils
joueurs.
Ils ont parlé que de ça, ils ont tout accès là-dessus. 60 joueurs en ligne.
Joueurs. 60 joueurs, c'est quand même énorme. Donc,
et donc,
sur ce type de titre.
Il a évoqué toute une qualité de gameplay justement par rapport au mode multi, pour pas que les gens se sentent perdus à 60, sur la map. Donc avec des petits squads. Enfin, il a plein de petites idées de gameplay.
Il dit que c'est la grosse guerre, mais plus intime.
Voilà,
c'est-à-dire que chaque. Tu vas avoir plusieurs squads à l'intérieur de ces 60 joueurs, chacun avec des objectifs différents qu'ils vont devoir mener. Ils vont pouvoir se croiser évidemment sur la carte et y aura toujours une némésis, c'est-à-dire un groupe et un anti-groupe. Un des groupes va devoir atteindre l'objectif X et l'autre groupe va devoir empêcher que l'objectif X soit atteint par le premier, etc. Ce genre de choses-là. Donc créer des dynamiques
à
l'intérieur
ennemis,
des 60 joueurs. Ouais, mais créer des dynamiques sur les cartes entre les 60 joueurs. Il y a aussi toute une campagne exprès pour le coop. À 8 joueurs, donc ça peut être quand même 8 joueurs en coop, donc avec une campagne séparée de la campagne solo qui est prévue pour le coop, donc ça fait quand même du taf aussi.
Oui.
Et évidemment, il prévoit à la Facebook tous les trucs en ligne avec myresistance.net qui sera lancé en même temps.
On pourra se poker ?
On pourra sans doute se poker, s'envoyer des images de
cul, s'envoyer des quiz.
Oh, voilà. Mortel ! Waouh!
Donc il y a quand même pas mal de choses de prévues avec toujours pour le multi une progression du personnage, donc sans doute un peu à la Call of Duty aussi, etc. Donc
ça c'est très très bonne annonce en tout
sur
cas
le papier, oui.
Pour
ce qu'on avait en image.
PS3, par contre, il va falloir du serveur en derrière quand même.
Ah bah oui, ça serait bien parce que quand on a vu la GTA 4 est sorti, les serveurs sont restés en rade plus de 24 heures quand même. Donc bon, j'imagine qu'ils sont échaudés et qu'ils verront.
Oui, puis on l'a vu aussi avec la bêta de Metal Gear Solid,
aussi,
enfin, Metal Gear
oui.
Online.
Le cauchemar.
Le cauchemar d'Igno. Ouais, c'est ça. Ils sont en train de plus en plus de miser sur le online. C'est une très très bonne chose. Maintenant, il faut que ça suive techniquement derrière.
Voilà, mais en tous les cas, en termes de game design, déjà, Ted Price, c'est pas le dernier. Le patron de.
Moi, j'ai confiance en lui. C'est vrai que
moi aussi,
tout ce qu'il fait.
Insomniac, ça a toujours été des jeux de qualité, techniquement.
Oui, mais même en termes de game design, je pense qu'en termes de multi, il peut nous rendre quelque chose de vraiment intéressant. Mmh. Malheureusement, là, c'était visiblement encore trop tôt pour le montrer, quoi.
Ouais.
Voilà.
Il y a de plus en plus de développeurs, d'ailleurs, qui se plaignent un peu. On leur demande de rusher très vite des démos ou des. Et que quand c'est pas prêt quoi.
Et
que
finalement ça leur prend énormément de temps d'assembler une build.
Et ça leur fait quelque part, bon, pas un énorme tort, puisque ça peut se rattraper derrière avec un bon trailer ou quoi que ce soit, mais enfin quand même, sur le moment, ça laisse pas une super impression.
Bah quand c'est pas prévu pour, non, mais dans le cas d'un Killzone 2 par exemple, c'était très bien vu, la démo était efficace, le niveau présenté était quasiment fini aussi, donc voilà, ce qui n'empêche pas qu'il est reporté à février. Hein, mais, mais bon, en tous les cas, la présentation valait le coup, c'était bien de la faire. Pour Resistance 2, je suis plus. Comment, je sais pas.
Plus partagé.
Voilà.
Bon, On va parler maintenant d'un jeu avec une mouvance radicalement différente. C'est beaucoup plus frais, c'est beaucoup plus mignon, c'est beaucoup plus petit. Et ça arrive aussi cet automne.
C'est MotorStorm 2.
Non, c'est Little Big Planet. Little Big Planet, c'est un peu, je crois, l'un de vos jeux coup de cœur, un petit peu de cet événement.
C'est trop mignon.
Alors en fait... Je t'explique ce qui s'est passé.
D'ailleurs, Angel qui serait là, je pense que tu te serais fait tuer, Julo.
Certainement.
Non.
T'avais un écran, la productrice
télé,
du jeu.
Une console.
Quatre petits sièges devant. Lui s'installe avec
Beb. Julo, ouais.
Moi aussi. Et je commence à parler à la dev. Elle nous donne les quatre manettes. Et je ne les ai plus du tout entendus faire autre chose que de ricaner comme des cons. C'était impossible d'entendre les réponses de la productrice ni rien. Ouais. Ils se sont rentrés dedans immédiatement. Et depuis la phase de création du personnage où il a fait le même personnage que moi.
Non. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est hallucinant. On a fait exactement le même perso. Ouais.
Ouais. Il ressemblait à quoi pour voir?
On avait une perruque, trop moche, franchement.
Une perruque fuchsia avec des lunettes, tu sais, avec les yeux montés sur des ressorts comme ça.
D'accord. Enfin bon, on pouvait pas refaire dans cette démo comme on l'a vu avec les petits personnages de Killzone avec le casque à la Jinro.
Non, je l'ai pas vu dans le.
Non, t'as celui avec le bonnet un peu rasta là qui est super rigolo aussi.
Enfin, il y a plein de trucs. Hein. Ouais. Y a déjà plein de trucs de base quand le jeu sortira et il bosse beaucoup dessus. Il y a énormément de trucs.
Rappelons un petit peu le concept justement de Little Big Planet et de son contenu participatif gigantesque. C'est le communautaire du jeu vidéo quoi.
Bah, en fait, ça ressemble
à un jeu très simple. Très basique, un jeu de plateforme.
Mais ça rappelle énormément sport dans la philosophie. Ouais. C'est-à-dire que l'essentiel du contenu du jeu sera en grande partie créé par la communauté au fur et à mesure que les joueurs le feront. Quoi.
C'est-à-dire créer, ça veut dire qu'on peut créer des,
tu peux créer
niveaux,
des
objets,
tu peux créer
des
niveaux et tu peux créer du gameplay aussi. Parce qu'en fait, donc le principe du jeu, c'est de la plateforme vue de côté. Hein, c'est de la 2,5D.
Mais alors, super cartoon, très mignon.
Et puis le rendu, rendu est génial. Quoi. Ouais. Le rendu de ces textures est vraiment génial.
Oui, c'est super beau. Voilà. Mais donc tu as un moteur physique derrière tout ça qui te permet de créer des objets ou des dynamiques à l'intérieur d'un niveau avec en plus des objets. Par exemple, on a vu le jetpack qui est un petit objet que tu pourras utiliser aussi dans tes niveaux. Tu pourras construire des mécaniques. C'est vraiment, pour moi, j'ai ressenti ça un petit peu comme le Lego des temps modernes. Tu as plein de pièces différentes et avec de l'astuce.
Et un peu d'espièglerie.
Oui, probablement un petit peu d'espièglerie. Tu vas pouvoir créer des gameplays différents. Par exemple, donc un des niveaux, bon, là pour le coup, qui était créé par Media Molecule, les développeurs du jeu, c'était des plateformes qui allaient de bas en haut avec un trou dans chaque plateforme qui défilait de plus en plus vite. Mmh. Un nuage toxique en haut, un nuage toxique en bas. Donc le but pour tous les joueurs, c'était de rester le dernier en place.
D'accord.
Ça, c'était un niveau compétitif.
Mais alors, ça, justement, voilà, c'est ça que j'aimerais bien comprendre parce que je vois plein de vidéos, je vous en ai entendu parler, mais c'est quoi le but du jeu? On fait quoi? Il faut arriver à la fin du niveau?
Quand c'est coopératif, il faut arriver à la fin du niveau.
Alors, des fois, t'en as en temps limité aussi, t'as des courses. Mm-hmm. Donc,
je pense qu'il va y avoir une multiplicité de règles, en fait, et de niveaux. Quoi, et...
C'est ça, en fonction de.
En fait, c'est plein de mini-jeux, finalement.
Oui, ça ressemble
à
des mini-jeux de plateforme, en fait.
Plein de niveaux de jeux, quoi.
Il y a des dynamiques différentes. Soit ça va être réussir à 4 joueurs, par exemple, de la ramasser suffisamment d'orbes pour débloquer la fin et pour pouvoir sortir du niveau. Soit ça va être faire une course à 4, soit ça va être le dernier en place.
D'accord. Donc on arrive dans un niveau, on a la règle qui est... Ding, ding, il faut faire tout ça dans le niveau. Vous devez être le dernier.
Alors il n'y a pas d'exposition de règles. Non. Pour le moment, on n'a pas vu. Peut-être qu'il y en aura. Mais en tous les cas, ils n'ont pas montré d'écran particulier où on t'explique ce que tu dois faire dans le niveau pour l'instant. Ce qu'on a vu, c'est la customisation des personnages, la création
des niveaux. Avec un petit éditeur tout simple.
Qui est extrêmement bien fait, extrêmement puissant, vraiment, il est hallucinant.
Beaucoup de possibilités. Et donc tout ça, on l'enverra via le PlayStation Network.
Alors il y a une espèce de planète en fait, qui est une sorte de hub où tu vois tes potes, où tu vois les niveaux qui ont été balancés. Et il y aura effectivement une centralisation de tout ça et un échange possible. Alors
gratuit.
Oui, pour l'instant, en tous les cas. Oui, il y aura une modération aussi. C'est-à-dire que, enfin, tu peux garder les niveaux uniquement pour tes amis. Donc vraiment seuls les gens qui seront dans ta friend list pourront jouer à ces niveaux et donc ça sera pas partagé avec le monde, mais si tu partages ton niveau ou tes créations quelles qu'elles soient avec le reste du monde, il y aura une modération derrière effectuée évidemment par Sony pour éviter qu'il y ait je sais pas quoi, des niveaux en forme de croix gammée,
des niveaux en forme de grand journal dans lequel il faut écraser le message de Nintendo ou des trucs comme ça quoi.
Peut-être.
Voilà. D'accord, donc beaucoup de variété, beaucoup de liberté
et encore beaucoup de mystère.
C'est ça qui est bien.
Ben oui.
Donc à la rentrée fin 2008, Little Big Planet, un jeu à suivre de très très près. On finit notre tour d'horizon avec un jeu qui a fait parler de lui au lancement de la console pour En tout cas, le premier volet, pour avoir balancé au début une cinématique incroyable, être revenu dessus derrière, avoir un peu déçu, puis finalement s'être révélé être un plutôt jeu très correct. Ouais. Il s'agit de MotorStorm, là, qui revient dans ce deuxième épisode.
Et qui nous refait le coup de la vidéo super belle.
Voilà, mais cette fois très assumé, ils le disent. Bon, et alors, en vrai, ça ressemble à quoi ?
Bah, pas du tout la vidéo. Hein.
C'est clair.
Oui, je me sens assez négatif sur ce titre.
Non, parce qu'en plus, moi, même manette en main, je me suis bien marré. J'ai trouvé la course bien. Bon, c'est évidemment parce que j'ai éclaté le jeu, donc c'était plus drôle, mais
qu'est-ce que tu racontes ?
Bah si, t'étais arrivé 12e ou je sais pas quoi, j'étais premier. Bref.
La malédiction Mario Kart continuerait-elle ?
Ah oui, bah,
je comprends pas.
C'est ça, il savait pas où tourner.
Franchement, je me rappelle pas. Ah,
oui, c'est normal, il occulte. Mais bon, bref. Donc, mais en dehors de ça, graphiquement, c'est sûr qu'on est à des années-lumière du trailer.
Surtout qu'on a commencé par jouer donc, en écran splitté,
ouais.
Donc un split vertical.
Qui est quand même la plus grosse feature de ce numéro 2. Hein, en fait, c'est parce que dans le premier, ça n'y était pas. La communauté l'a beaucoup réclamé. Ils ont décidé de le mettre sur cette suite.
Ouais. Et donc
local, ouais.
On a joué comme ça pour commencer. C'est vrai que ça a ramé, mais à fond les ballons, quoi. C'était du ramage intégral. Alors c'était pas super.
40% de développement aussi, hein, d'après ce qu'il disait. Donc
non. En gros, les nouvelles features, ça va être donc la végétation
qu'on n'a pas du tout vu dans le circuit qui était présenté.
Bah ouais.
Hein,
du végétating 3D.
Ouais, c'est de la végétation.
Non, parce que c'est une idée intéressante aussi sur le papier. C'est-à-dire que suivant le véhicule que tu as, si tu es en moto ou en poids lourd, il y a certains passages que tu pourras emprunter parce que tu pourras défoncer la végétation. Sinon, ça va te ralentir. Ou, voilà.
Il y aura d'ailleurs
pas vu dans le niveau.
D'ailleurs, un nouveau véhicule, le Monster Truck.
Le Monster Truck.
Ouais.
Oh, ça fait.
Oui, d'ailleurs, ce qu'il faut noter, la présentation était juste.
C'était
génial.
Ouais, le creative director de
je sais pas s'il est irlandais, écossais ou quoi, parce qu'il a un putain d'accent déjà.
Il a un putain d'accent irlandais ou écossais et il est à fond dans son truc, c'est extraordinaire.
Il a un certain sens de la mise en scène. Si tu veux, le truc qui se passait sur l'écran derrière, ouais. il parlait et en même temps il y a des trucs arrivés sur l'écran. Genre il annonce le nouveau véhicule par exemple.
Ouais,
and the new vehicle, machin. Ouais. Et là derrière, bam, tu vois le Monster Truck qui tombe sur l'écran avec les enceintes à donf.
Et de manière très fine.
Voilà, et voilà, c'était très fin, franchement.
Brutal off-road racing.
Ouais, ça, c'est la formule qu'il a répétée pendant toute la présentation. Brutal off-road racing. Et tout va se passer sur une île, ouais. Donc voilà, avec toutes les topographies qu'on peut imaginer. Et voilà quoi.
Est-ce qu'au moins, techniquement, il y a une vraie plus-value ? Maintenant, c'est un jeu de deuxième génération.
Pour y avoir
PS3.
Joué en solo aussi, on a.
Bof.
C'est pas le même rendu que le premier.
Oh, pour virailler la tête de Julo.
C'est pas le même rendu que le premier. Hein. Mais pour l'instant, c'est pas un rendu qui est très concluant.
C'était sympa, c'était les grands jumps. T'avais des sauts vraiment gigantesques.
Là, par contre, t'avais des sensations.
Et
pour le coup.
Ouais, c'était assez sympa. Ouais. Tu faisais vraiment, vraiment des très, très gros sauts d'une partie à l'autre du circuit.
Donc c'est encore un peu tôt.
À mon avis, c'est un peu tôt. Bah, d'ailleurs, c'est 40% du développement aussi. Donc voilà quoi.
Bon,
ah,
Mazette, j'ai envie de dire, finalement, que de surprises incroyables dans ce PlayStation Day 08.
Bah ouais. Hein.
Et bien, il y en avait quand même une. Il y avait une surprise énorme. Il y avait quelque chose sur lequel on ne pouvait pas ne pas revenir, c'est Lightoy Pom Pom Girl. Messieurs, je vous écoute, qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Non, c'est vrai qu'ils ont fait plein de trucs, alors comme quoi, c'était effectivement l'aspect vivant de la PS2, c'est qu'il y avait 2-3 trucs Lightoy. Il y avait le truc avec l'épée. Donc, en gros, t'as une épée en plastoc, ça fait une
Wii
sur PS2,
quoi,
en gros. Ouais. C'est un jeu où tu dois bouger ton épée. Et les Pom Pom Girls, donc là en fait, t'as des. Comment on appelle
Qu'est-ce
ça les...
ce truc
Je les ai cherchés pendant toute la soirée, je les ai pas vus. Hein.
Si, je l'ai vu moi.
Tu l'as vu,
pas vu. Il cherchait les Pom Pom Girls.
Ouais, voilà, moi j'ai vu le jeu et lui il cherchait les Pom Pom Girls. Et je suis marié.
C'est marrant, j'en ai fait comme un rang moi.
Bref. Et t'as des petits bidules, quoi, les petits bidules de Pom Pom Girl, les petits froufrous là,
oui.
Qui sont.
C'est éclaté apparemment avec ça.
Mais j'ai l'impression, hein.
Non, c'est naze, quoi. C'est... non, enfin, c'est un. Voilà, c'est
et t'agites ça, genre, et tu fais.
Voilà,
oui,
t'agites
oui,
ça, mais en fait,
t'as des
marquages à l'écran qui te disent, voilà, et puis tu dois.
Donnez-moi un U, donnez-moi un V,
voilà,
donnez-moi un U.
Et donc, tu dois suivre un petit mouvement avec.
Donnez-moi un G, donnez-moi un A, donnez-moi un M. D'accord, ok.
C'est trop long. Donc voilà, oui, c'était fantastique.
Très bien, voilà, super, incroyable. On ne pourrait pas quand même conclure sans parler de Home. Eh ben oui.
Ah oui.
Parce qu'on parle de report de certains titres, on parle de Sony qui veut faire du jeu, on parle de Sony qui veut se concentrer, en tout cas avoir une grosse influence sur le online. Bah, Home, qu'est-ce qui se passe ? Encore le retard.
Alors déjà, donc Home est en retard.
Beaucoup de développeurs qui se plaignent d'ailleurs
voilà,
de ça.
Et Kazirai, donc s'excuse, comme on disait au début du podcast. Donc il arrive, c'est cet automne aussi.
Normalement. La bêta fermée est
en cours.
Toujours en cours.
Raon a discuté pendant des heures avec le Home Architect.
qui ne m'a pas fondamentalement convaincu de.
Bah, il avait rien de précis véritablement.
Non, il n'a pas d'idée géniale.
Il n'a pas arrêté de te dire que son métier était génial, par contre.
Voilà, voilà, alors ça, il était très content d'être à sa place, mais. Mais bon, à part ça, effectivement.
Mais est-ce que Home ne souffre pas quand même du départ de Phil Harrison, qui avait l'air quand même très impliqué dans le projet, qui a peut-être vu trop haut? Alors d'ailleurs, c'est ce que certains responsables de Sony soulignaient. Ils disaient qu'ils étaient peut-être un peu trompés d'objectif et qu'ils avaient voulu passer beaucoup de deals avec plein de marques, etc., mais sortir un petit peu du jeu. Et que là, ils étaient en train de
c'est
se concentrer.
C'est la Second Life, quoi.
Voilà, exactement. Qui fait d'ailleurs un peu le flop, donc ils n'ont pas envie de le rééditer. Et que du coup, là, ils étaient en train de se concentrer à mettre du contenu joueur dans Home. Et que ça leur manquait pour l'instant.
Mais alors, le contenu joueur, en l'occurrence, c'est des trucs genre tu vas jouer au billard, tu vas jouer. Tu vas faire exactement la même chose que dans un GTA 4, mais en multi dans Home, quoi. Avec tes potes, tu vas jouer au billard, tu vas jouer aux fléchettes, tu vas jouer machin. Et effectivement, après, tu as toutes les fonctionnalités qui sont sous forme de menu dans un Xbox Live où tu vois qu'un tel va jouer à quelque chose, où tu vas inviter et préparer des parties à l'intérieur de Home. Tu vas faire la même chose. Donc,
mais en déplaçant ton joueur.
Quoi, voilà,
donc en trois fois plus de temps.
Alors, j'espère pour eux qu'ils auront pensé à une ergonomie plus simple, c'est-à-dire des menus à l'intérieur de Home. Ça sera super intéressant.
Attends, je vais lancer une partie. C'est à l'autre bout de la carte. Deux secondes. Vous êtes prêts pour jouer? Non, pas du tout. Bon, très bien.
Mais effectivement, non, pour l'instant, il n'y a pas eu de présentation effective de feature vraiment qui justifie finalement Home comme étant quelque chose d'unique et de vraiment très intéressant. Pour l'instant.
Ils ont parlé de choses qui moi me touchent un petit peu. Je trouve ça intéressant, même si clairement c'est pas avec ça qu'on va faire un succès d'un logiciel, enfin en tout cas de ce concept. Mais c'est que certains jeux qu'on aurait donc sur sa PS3, je pense par exemple à Uncharted, on pourrait en passant par Home y retourner sans aucun ennemi, juste pour redécouvrir l'univers en se baladant, un petit peu comme une sorte de voyage. Et du coup permettre aux gamers de s'éclater sur leur jeu, et peut-être que si dans leur famille, leur copine, leur petit frère ou quoi que ce soit veut voir le jeu mais sans se prendre la tête à se prendre des balles ou quoi que ce soit, bah, il va se balader. Alors je suis pas sûr que ce soit une énorme feature, mais je trouve ça intéressant comme idée, comme axe. Ouais. Redécouvrir le jeu, du coup, prendre son temps, recadrer la caméra. Tu sais,
et puis il y a un risque aussi. Il y a un risque aussi que soient concernés uniquement les jeux first party de Sony, parce que quand tu vois par exemple GTA qui a été lancé, il a été lancé avec sa plateforme communautaire aussi, tu vois. Ils vont pas.
Oui, mais c'est parce que c'est un titre multi, donc ils peuvent pas se contenter de faire que des trucs sur Home.
Ouais.
Bah, c'est surtout qu'il est pas lancé en plus pour l'instant, donc.
En plus, mais à mon avis, ça sera plus dans le goût de ce que tu peux avoir comme bonus sur un Blu-ray par exemple par rapport à un film. Tu vas peut-être pouvoir regarder quelqu'un d'autre dans sa partie, quelqu'un qui est lancé dans une partie. Tu vas pouvoir peut-être, si t'as un pass, si lui t'a filé un pass pour aller dans son appart, tu vas dans son appart, tu vois à quoi il joue en ce moment, peut-être
le dévalises pendant qu'il est en train de jouer.
Je sais pas comment ça peut se passer, mais à mon avis ça sera plus de l'ordre des bonus par rapport au jeu. En tous les cas, ça sera plus des bonus comme un Blu-ray dans Home une fois que tu auras acheté le jeu. Quoi. Mais...
Bah moi je maintiens, depuis le départ de Phil Harrison, il communique de moins en moins dessus et je pense qu'il leur manque un vrai porte-parole qui puisse évangéliser un peu autour de Home et faire rêver un petit peu les gens.
Mais vraiment exactement c'est quoi le fond du truc.
Bah
quoi.
Oui, parce que Home, on entend plus ou moins parler, mais enfin on ne sait toujours pas, à part qu'on peut acheter des meubles, se refaire un petit habitat chez soi, ce qui est bien. Mais pas top. Bon, on ne pouvait pas parler, bien évidemment, du PlayStation D08. On a ouvert un petit peu avec les chiffres de vente de la PS3 pour faire un petit point un an et quelques après le lancement de la console. Il y a eu un événement gigantesque. Hein, la semaine dernière, c'était le lancement de GTA 4. Désormais, maintenant, on a les chiffres, les premiers chiffres qui sont tombés. GTA 4, le jeu de tous les records. Alors, il se posait une question, bien évidemment. C'était de savoir à qui... ça pourrait...
À qui profite le crime ?
Complètement, voilà. Et c'était un petit peu aussi au cœur de ce PlayStation D08, de savoir un petit peu quelle dynamique la PlayStation N3 allait pouvoir avoir. Alors, on a pris un petit peu tous les chiffres. Hein. On a regardé. On s'est rendu compte qu'en Europe...
Enfin, en dehors des États-Unis et du Japon. Donc, c'est voilà. Europe, Australie...
On va commencer par le monde. Hein, puis, on va rentrer dégressif. Dans le monde, il s'est vendu donc un peu plus de 5 millions de GTA 4. 6 millions même de GTA 4. Plus de 500 millions de dollars générés de chiffre d'affaires. Ça se répartit de cette manière. PlayStation 3, 2,62 millions d'exemplaires vendus. Xbox 360, 3,29 millions d'exemplaires vendus. En gros, il se serait vendu à peu près 56% de GTA sur Xbox et 44% sur PS3. Donc, dans l'absolu, au niveau mondial, une certaine avance pour la version Xbox 360 de GTA.
Sachant qu'il y a aussi plus de Xbox dans le monde.
Bien évidemment. Alors du coup, bah, on a regardé un petit peu ce qui nous concerne directement, donc plutôt le territoire européen. Et là, on voit que la tendance est inversée, puisqu'il se serait vendu 1 200 000, on va dire, GTA sur PS3, alors qu'un tout petit peu moins d'un million, 970 000 GTA sur Xbox 360. Et du coup, bah, là, c'est l'inverse, hein, c'est 56% de GTA sur PS3 et 44% sur Xbox. Ce qui est très intéressant, et ça c'est ce que soulignait Raan, c'est de voir que finalement, à base installée, en comparant un petit peu les bases installées, on se rend compte qu'en fait, c'est très proche. Chacun a vendu à peu près le même nombre de GTA.
Ça reste en faveur de Sony. Ça reste en faveur de Sony, puisque des consoles en fait donc territoire autre que les États-Unis et le Japon, donc Europe,
le Japon
Australie,
n'est pas sorti,
etc.
De nous, hein. Donc pour l'instant on est à zéro.
Oui, non, mais je rappelle juste ce que c'est que le Others pour nous, c'est pas seulement les pays d'Europe,
il y a l'Australie,
il y a les pays de l'Est,
il y a
plein de trucs. Donc en termes de consoles, la PS3 c'est 45,7% du marché, en dehors de la Wii, hein, je prends uniquement PS3 et Xbox, donc c'est 45,7%, alors que la Xbox c'est 54,3%, et donc des GTA 4, ils en ont vendu 56% sur PS3, avec une base installée inférieure d'environ 1 million de plateformes en moins, ils arrivent quand même à faire 56% de GTA 4 dessus. Donc ça veut dire que le pack a certainement bien fonctionné et que grosso modo, par rapport à la base installée, GTA 4 a priori vendu plus sur PS3 que sur Xbox 360, probablement en termes de machine aussi.
Alors ce qui est très intéressant, parce que là je suis en train de m'en rendre compte pendant qu'on est en train de le dire, c'est que je crois qu'on va vous faire aussi une news qui va vous récapituler un petit peu tout ça, parce que je veux savoir dans le forum quelles sont les personnes qui ont compris, hein, parce que pour nous c'est très clair, mais 45% via 4 millions, bon c'est compliqué, mais enfin en
non,
tout cas vous avez compris
simple.
Le concept, hein. C'est qu'on a noté en fait depuis le début de l'année, on a regardé un petit peu rétrospectivement, semaine après semaine, quelles étaient un petit peu l'évolution des ventes de la Xbox 360 et de la comparer à la PS3. Alors on s'est rendu compte que depuis le début de l'année, eh bien en fait Sony avec la PS3 vendait à peu près 100 000 machines de plus que la Xbox 360. Et du coup, grâce à un calcul intellectuel dont seul Raan a le secret, eh bien on s'est rendu compte que si la tendance restait la même, alors bien évidemment certains vont peut-être accélérer, d'autres ralentir, mais en tout cas si on restait sur la même tendance, il faudrait quand même 5 ans à la PlayStation 3 pour ne serait-ce que rattraper la Xbox 360. En gros, bah, c'est pas gagné.
Bah, c'est la moitié du cycle de vie annoncé par Irai, Kazirai sur le PSD, justement. Donc bon, c'est pas forcément non plus irréaliste.
On sait très bien aussi que le cycle de vie de la PS3, il dépendra aussi de la prochaine console de Microsoft. Ils peuvent refaire le coup de le sortir en avance, de presser le pas, etc. Ils le feront, je pense.
Alors ouais, c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour demain, mais c'est peut-être dans 2-3 ans.
Le cycle de 10 ans,
on verra. Il existera pour le grand public, tout comme il a existé pour la PS1 et la PS2. Mais pour les vrais gamers, ceux qui ont envie de basculer, c'est sûr qu'on n'attendra pas en tout cas 10 ans pour avoir une PS4.
Ouais, enfin quand tu sais, quand on voyait ce qu'il y avait comme qualité sur une PS2 en fin de vie, moi je...
C'était bluffant.
Voilà, donc je serais pas si sûr que ça. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'au vu de on avait tendance à croire auparavant que 2008 serait avant tout une année PlayStation. C'est pas, en tous les cas, pas au vu du PSD pour l'instant. Donc sous réserve de ce qui se passera à l'E3 et évidemment au reste de l'année.
C'est ça, parce qu'ils ont gardé forcément des trucs sous le coude.
Ils ont forcément des cartouches, mais l'autre aussi. Il y a des cartouches de part et d'autre, mais moi j'ai moins le sentiment que la balance va dramatiquement changer en faveur
année,
de l'un ou de l'autre cette année. Quoi.
2008, ouais, y a personne, aucun des concurrents écrase vraiment l'autre, hormis Nintendo, mais enfin vraiment vous avez compris, c'est une course distincte. Justement, on fait un petit peu le bilan du PlayStation Day 08, mais aussi un petit peu pour la fin de l'année, si on se projetait. Quel serait par exemple pour vous le jeu porte-étendard de la Xbox 360 et le jeu porte-étendard de la PS3 en cette fin d'année?
Genre pour Noël?
Ouais.
Sur 360, ça sera forcément Gears of War 2.
Probablement.
Ils
ont un catalogue de titres.
Là, on parle du first party. Hein, parce que
ouais, mais
il y a
la seconde aussi. Enfin, ils ont beaucoup de seconde partie en fait aussi chez Microsoft. Genre des Ninja Gaiden 2 par exemple. C'est pas très grand public. Mais ouais, sûrement Gears of War 2.
Et face à ça, finalement, c'est quoi? Ce serait plutôt Resistance 2, le gros titre Sony pour
Resistance 2 a l'avantage d'être une franchise que les gens connaissent déjà, donc c'est toujours un avantage, plus que Killzone 2, parce que je suis pas certain qu'il ait laissé que le premier. De toute façon, c'est 2009, effectivement, donc on ne sait même pas la peine d'en parler.
Mais
Little Big Planet.
Voilà, alors Little Big Planet, justement, c'est un peu le souci, c'est que clairement, nous, gamers, avec notre regard, c'est un jeu qu'on a envie d'énormément pousser, mais
Mais attention, ça marche super bien pour tout le monde, quoi. C'est ça le truc, c'est que tous ceux qui passent devant l'écran trouvent ça tellement génial qu'ils ont envie d'y jouer. Visuellement, c'est tellement fort.
Ouais, tu t'amuses tout de suite, après, tu sais que tu vas t'amuser tout de suite.
Mais est-ce que ça correspond vraiment avec l'image que le grand public a aujourd'hui des jeux PlayStation 3? Est-ce que c'est pas Little Big Planet? Ce serait pas un jeu qui ferait tilt tout de suite dans la tête sur des gens Wii, si c'était sur Wii,
ouais, voilà. C'est clair.
Mais qui s'attendent pas du tout à avoir débarqué sur PS3 et sur lequel finalement, hormis pour les sites les spécialisés, les magazines spécialisés, enfin pour les joueurs avisés, Little Big Planet n'existe pas.
Mais
il
ça
y a
dépendra,
pas de vidéo sur PlayStation.
Ça dépendra de la communication de Sony, et on sait qu'effectivement ils ont un petit coup de mou par rapport à la génération précédente.
Mais moi je trouve, même les deux dernières générations, c'est-à-dire que moi je trouve que là.
Non mais même pour ces produits-là, tu prends un Patapon, tu prends avant Patapon c'était
Locoroco,
etc. C'était des trucs très forts visuellement, mais qui sont pas commercialement transformés en succès grand public.
Moi je maintiens que Sony a été depuis le début, lors du lancement de la PlayStation première,
le roi de la com.
Mais les empereurs de la communication, ils avaient des campagnes marketées magnifiques, identifiables, identifiées, un message très clair, uniformisé. Et là sur PlayStation 3, le message, justement, on le soulignait en ce début de podcast, varie selon les années, selon les mois.
C'est-à-dire que même
les
pour les spécialistes,
c'est de plus en plus compliqué.
Même pour les spécialistes, ils sont de moins en moins clairs. Ils ont fait des erreurs de com. Bon.
Et autant Nintendo sont devenus justement absolument incroyables en termes de communication. On reconnaît instantanément une pub Wii. Là, c'est pas du tout pour dire c'est bien, c'est pas bien, etc. Mais c'est juste, voilà, ils ont créé leur marque autour de la Wii. Un renouveau incroyable de Nintendo, alors que Sony, en termes de communication et d'impact que ça a sur le grand public, chez les gens, quand même vraiment baissé. Moi, j'ai vraiment l'impression aujourd'hui que ce que le grand public sait et a en tête de la PlayStation 3, c'est une console super techniquement, mais très très chère. Ça s'arrête à peu près là.
Pour l'instant, ouais, sans doute. Surtout qu'en plus, avec des choses comme le prix de la Xbox maintenant, etc., ça aide pas, quoi.
Non. Donc, il y a vraiment énormément de choses à faire pour développer la communication autour de titres forts comme Little Big Planet. Bon, eh bien, écoutez, nous, c'est là-dessus qu'on va se quitter pour ce podcast 57. Avec tristesse, avec joie, avec clarté, avec ce que vous voulez. Mais en tout cas, on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine avec, vous allez voir, un podcast un petit peu différent. On a envie de s'amuser. Il fait tellement beau dehors. Ça nous fait plaisir. Un podcast Blind Test. Oui, vous l'avez reconnu. Hein, on va parler de musique. Donc, vous allez tous pouvoir jouer sur les forums. Trouver, comme d'hab, les 20 titres de notre Blind Test incroyable qui sera la semaine prochaine préparé par Julien Hubert. Et à Julo, qu'est-ce que tu vas nous réserver? J'ai déjà envie d'y jouer.
Peut-être plein de surprises.
J'espère.
De la musique.
Oh, c'est incroyable. Bon, on se dit rendez-vous donc la semaine prochaine, et puis tout de suite pour le fil de l'actualité sur gameblog.fr. Bisous, portez-vous bien et surtout, jouez bien. Ciao, ciao.
Salut. Bye bye.